Le dévoilement de Dieu numéro 123. La folie du temps de la fin, cinquième partie. Des temps difficiles. 3 novembre 2019 matin. Pasteur Brian Kozurek. 2 Timothée 3, 1. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. La Bible amplifiée dit dans 2 Timothée 3, 1 mais comprend que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, de grands troubles et stress, difficiles à affronter et à supporter. Maintenant, souvenez-vous que frère Branham nous a enseigné que la nourriture hybride et les tensions pourrissent les corps et les esprits des gens. Ainsi, les tensions et les stress sont des choses très critiques dans la perte de la race humaine. Et vous remarquerez que la traduction amplifiée de 2 Timothée 3, 1, nous dit, ces temps de grande tension et stress seront difficiles à affronter et à supporter. Nous lisons dans Marc 4, 18-20 d'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole. Et la parole rend infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, et portent du fruit, 30, 60, et 100 pour un. Remarquez que cesser l'invasion des soucis de cette vie, étoufferont la vie qui se trouve dans la parole. Et ainsi, nous sommes avertis de faire attention, de n'aimer pas être si emportés par les choses du monde, et leur permettre de prendre le dessus sur nos vies. Maintenant, le mot grec utilisé ici pour souci esther, le mot merimna, qui signifie les anxiétés de cette vie. Et je veux que vous vous souveniez que le mot anxiété esther défini par Webster comme étant un état d'être inquiet ou préoccupé au sujet de ce pourra arriver, se rapporte à un probable événement futur. Les effets psychologiques de l'anxiété sont l'inquiétude et les tensions nerveuses. Maintenant, nous voyons aussi les conditions des gens du temps de la fin, qui sont emportés par les anxiétés de la vie, être aussi mentionnés ici par l'apôtre Paul. Il continue. 2 Car les hommes seront égoïstes. Et si vous vous rappelez quand j'ai prêché sur Romains 8, que l'apôtre Paul a dit, que vous n'aimiez pourriez même pas recevoir l'Esprit de Dieu, si vous êtes égoïste. Car il a dit, être égoïste, c'est être en inimitié avec Dieu, parce qu'être égoïste, vous n'aimiez pouvez pas vous concentrer sur Dieu. C'est être un esprit complètement différent. Alors, après Paul dit, les hommes seront égoïstes. Il nous montre les caractéristiques identifiables de ce que signifie être égoïste, cupide, et pourquoi les gens seraient cupides. Bien, ce devrait être plus explicite. Ils sont égoïstes. Ainsi ils veulent pour eux-mêmes. Vous n'aimez devenez pas cupide au profit des autres. La cupidité est une maladie auto-infligée. Une maladie auto-motivée. Fanfaron, c'est un attribut supplémentaire, basé sur le soi. Cela n'est mis par le pas des gens se vantant pour Dieu. Le mot qu'il a utilisé est fier, c'est une fierté personnelle, et une fierté personnelle est une maladie auto-infligée. Et c'est basé sur la motivation personnelle, cela n'est mis par le pas des gens qui sont fiers pour Dieu. Ensuite, il dit qu'ils sont blasphémateurs. Et blasphémer, c'est prononcer des mots nuisibles. Et c'est ce que font les gens égoïstes. Ils font usage des mots nuisibles pour casser tout celui qui a des pensées différentes qu'eux. Ensuite, il dit qu'ils sont aussi désobéissants à leurs parents. Ainsi, pourquoi les enfants désobéissent-ils à leurs parents? Parce qu'ils sont égoïstes. Ils sont centrés sur eux-mêmes. S'ils n'étaient pas centrés sur eux-mêmes et qu'ils plaçaient leur famille en premier et leurs parents en premier, alors ils n'y considéreraient pas le fait d'être désobéissants à leurs parents. La chose suivante est Esther ingrat. Et c'est Esther ainsi que sont les personnes égoïstes. Ingrat. Rien n'est Esther complètement bien. Ils se plaignent toujours. Aucune aide n'est Esther suffisante. Et finalement, ils sont irréligieux. Et cela signifie qu'ils n'aiment vivent pas une vie sainte et consacrée, mise à part pour Dieu, où Dieu est Esther la priorité de leur vie, et ensuite, leur famille en deuxième lieu et soi-même en dernier. Et comment pouvez-vous être consacré, si vous vivez pour vous-même, et que toute votre vie est Esther centrée sur vous-même? Ainsi, tous ces attributs ont pour origine la réelle maladie et s'estère l'égoïsme. Et comme ils sont égoïstes, l'apôtre Paul dit qu'ils sont trop insensibles et cela signifie, maintenant, retenez ceci, c'est la meilleure formulation dans le dictionnaire grec. Cela signifie qu'ils ont un cœur dur envers leur parenté. C'est la famille. Ils mettront de côté toutes sortes d'indifférence envers les étrangers, mais ils sont cruels dans leur cœur, envers leur propre famille. Insensible. Et qu'est-ce que l'insensibilité? Observez les animaux. Ils aiment leurs jeunes. Ils les aiment et les protègent. Et c'est la manière naturelle de montrer l'affection. Mais ceux-ci sont sans amour et affection naturelle envers les leurs. Ils diront des choses à leur femme ou à leur mari, qu'ils n'y penseraient jamais dire à un étranger. Et si c'est le cas avec un étranger, à qui vous n'y devez rien, alors pourquoi utilisez-vous de langage abusif envers une personne que Dieu vous recommande d'aimer? Quand vous faites cela, vous êtes sur votre route vers la folie du temps de la fin, frères et sœurs. Ainsi, arrêtez cela. Je sais que vous les faites, je vous ai entendu le faire, et comme votre pasteur, je vous demande d'arrêter cela, et de mettre cela en ordre avec Dieu. Frère Branham a dit que votre attitude envers d'autres pourrait déterminer leur destination éternelle, et le vôtre aussi. Il a dit que vos disputes vous empêcheront un jour d'entrer dans le pays promis. C'est-à-dire ce qui a tué de 2 millions des gens qui avaient suivi Moïse à la sortie de l'Égypte. C'était leur chamaillane constante et leur dispute, les uns, les autres. Néhémie, pouvez-vous pas voir que l'alpha doit se répéter dans l'oméga? Ainsi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous demande d'arrêter juste maintenant, ou subissant les conséquences. Les esprits séducteurs, 24 juillet 1955 p. 75. Qu'importe combien de temps vous avez été un chrétien, avez-vous toujours ces vieux esprits qui vous parlent, vous font voler en vrac, vous faisant parler de quelqu'un d'autre? Quand quelqu'un vient et commence à parler à quelqu'un d'autre, vous vous joignez simplement à eux et aux, juste les écraser? C'est faux, frère. Néhémie, le faites pas. Cela va finalement vous faire manquer la terre promise. Si vous avez ces petites choses que vous, Néhémie, devriez pas avoir, si l'amour de Dieu n'est-il pas dans votre cœur, Néhémie, serez-vous pas une dame et un homme? Levez-vous et dites, Dieu, juste ici, je vais le déposer ce matin, juste ici. Je me lèverai de cet autel, étant une personne différente. Viendriez-vous? Maintenant, je n'ai pas vu venir, jusqu'à ce qu'il me l'ait montré le dernier soir lors de mon étude. Mais c'est absolument vrai, frères et sœurs. Et vous les gens, qui vous disputez tout le temps, honte à vous, débarrassez-vous-en. Et mettez cela en ordre avec Dieu, parce que vous êtes dans une condition assez horrible, pour se tenir devant Dieu et vous disputer comme vous le faites. Et vous allez d'un appel à l'autel, à un autre appel à l'autel, devant Dieu dans vos cœurs. Mais pourquoi revenez-vous à vos vieilles manières? Soit que vous êtes né de nouveau et agissez comme un fils de Dieu adulte, ou vous n'êtes pas né de nouveau et agissez comme un bébé. Ou que le Saint-Esprit a déjà pris son envol de votre vie, comme il l'a fait avec les vierges folles. Voudriez-vous dire que c'était dû au fait de perdre leur premier amour? Je pense ainsi. Et cela conduit à l'attribut suivant de cette personne égoïste. Qui est-elle? Déloyaux. Vous avez des disputes à la maison. Ensuite vous vous maquillez, appelez Trêve et ensuite y revenez. Une fois que quelque chose est dit, contrairement à la manière que vous vouliez que cela soit dit. Vous êtes déloyaux quand vous faites cela. La première chose qui brise une trêve, c'est le fait d'être déloyal. Maintenant, la racine du mot trêve signifie celui qui veut s'offrir comme une offrande. Comme la femme qui chantait, Jésus portera-t-il la croix tout seul et tout le monde s'en ira libre? Non. Il y a une croix pour chacun et il y a une croix pour moi. Elle a reçu des insultes de son mari et s'est offert à la croix de Christ comme un sacrifice, comme Paul nous a instruit de faire dans Romains 12:1-5. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Néhémie, vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Ainsi, je vous demande à vous qui vous disputiez à la maison, lequel d'entre vous est déloyal, ou est-ce tous les deux? Ainsi, qui est celui qui va s'humilier en faveur de l'autre, et pour la croix, comme un sacrifice vivant? Et Paul nous a enseigné de Néhémie pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes que nous Néhémie le devrions. Et si vous n'avez pas une trop haute opinion de vous-même, que vous Néhémie le devriez, vous n'avez pas une trop haute opinion de vous-même. Vous Néhémie pensez pas comme une personne égoïste, mais comme Christ pense. Ainsi, nous laissons la pensée qui était en Christ être en nous. Philippiens 2:1-3. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Néhémie fait rien par esprit de parti ou par vaine gloire, c'est une gloire vide, car si ce n'est pas la gloire de Dieu, alors c'est votre gloire personnelle vide, votre propre doxa vide, vos propres opinions vides, valeurs et jugements. Et il a dit, Néhémie ne sait rien, ce qui signifie aucune action n'est trop faite, à cause de vos propres opinions et valeurs vides, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Femme, considérez vos maris comme meilleurs à vous. Marie, considérez vos femmes comme meilleures à vous. Ainsi, vous serez respectueux à leur égard. 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. parce que c'est ce qu'est la vie éternelle. Non pas penser pour soi-même, mais penser aux autres. 5. Ayez en vous les sentiments, qui étaient en Jésus-Christ. Et ensuite, il dit deux fois accusateur, et n'est stéril pas intéressant que cet égoïste soit toujours la personne qui cause d'autres choses, pour lesquelles ils seraient eux-mêmes coupables? C'est rappeler la projection. Les gens projettent sur les autres ce qu'eux-mêmes sont à l'intérieur. Nous voyons cela chaque fois dans la politique, où le DNC a brisé presque toutes les lois et pourtant les a projetées sur leurs adversaires. C'est la folie du temps de la fin. Alors, il ajoute, incontinent, et cela signifie manque de contrôle de soi et Néhémie, peuvent pas contrôler leur bouche. Ainsi ils disent ce qu'ils laissent et ensuite essaient de le justifier en projetant leurs propres erreurs sur la personne dont ils parlent en Malachie. Et en faisant ainsi, Paul dit qu'ils sont féroces et remarqués, et le mot féroce signifie brutal et sauvage. C'est intéressant que cela suit la tribu de l'incontinent, parce qu'il parle d'attaque sauvage des autres, sans un quelconque contrôle, comme ce que vous faites à cette personne. Et c'est tout, parce qu'il dit qu'ils sont ennemis des gens de bien, frère Bell m'a toujours dit, de faire attention, de n'aimer pas trop aider les gens, car ceux que vous aidez plus, sont toujours ceux qui vont vous poignarder sur le dos, le plus férocement possible. Et pourquoi le font-ils? Paul a dit ils sont ennemis des gens bien, Jésus Néhémie nous a, il pas enseigné dans Matthieu 5, 44 mais moi. Je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ainsi, que signifie qui vous maltraite? Le mot maltraité utilisé, a été traduit du mot grec. Epréaso et signifie insulter, ou calomnier, de maltraiter, d'accuser faussement. Cela signifie qu'il s'agit d'un traitement méprisant, une insulte au regard de ce que vous avez fait pour eux. J'ai construit des maisons pour certains pasteurs en Afrique, qui, quand les fonds avaient baissé et que je n'ai mis pouvait plus les assister, ils m'ont maudit, m'ont donné des noms, qu'on a émis peut même pas coller à un chien. C'est de la maltraitance, mes frères. Frère Bell a construit une maison pour un frère et plus tard, ce frère a quitté Esther allé dans une église qui haïssait frère Ouvel et il a répandu des commérages pleins de malice à son sujet. Ainsi, ils l'ont utilisé et ensuite, l'ont vomi, comme ils le font avec l'évangile. Ils vous exploitent et ensuite vous vomissent. Et pourquoi le font-ils? Parce qu'ils sont totalement égoïstes, égocentriques, centrés sur eux-mêmes et sans le Saint-Esprit pour les conduire. Et ainsi, ils deviennent des quatre traîtres, et nous voyons cela, aujourd'hui dans la politique, mais nous voyons cela aussi dans l'Église. Et la racine, c'est se trahir comme Judas l'a fait envers Jésus. Devenir déloyal et infidèle à une cause ou envers le leader de cette cause. Vendre. Et nous voyons cela aujourd'hui dans la politique, dans les affaires, où les gens font des offres spéciales. Et dans l'Église, où les gens sautent d'une église à une autre, et enlèvent toute la saleté de la lessive, de la première église et les mêmes dans la suivante, ainsi de suite. Et ensuite, il dit qu'ils sont emportés et enflés d'orgueil, ce qui signifie qu'ils sont des juges à tout. Vous, Néhémie, pouvez rien leur enseigner parce qu'ils le connaissent déjà ou pensent le connaître. Et c'est la pire espèce. Parce que vous, Néhémie, pouvez aider ces gens. Et ainsi, ils sortent comme les gens qui croient aux signes, et deviennent aimant le plaisir plus que Dieu, et ils quittent la parole ou l'église et ainsi ils entrent pleinement dans le monde. Et comme frère Branham dit, ceci parle des membres de l'église, parce qu'ensuite, il dit, 5 ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Remarquez qu'il dit, ayant l'apparence de la piété, ce qui signifie, il professe être chrétien, ce qui signifie semblable à Christ, mais reniant ce qui en fait la force. Ainsi, de quelle puissance Paul parle-t-il? Il parle de la puissance qui les ferait ressembler et agir comme des chrétiens, la puissance d'une vie sans fin. Comme Paul en parle dans Hébreux 7. Et qu'est-ce qu'une vie sans fin? C'est-ce une vie éternelle? Celle qui est remplie de la vie du Saint-Esprit. Et ainsi, Paul nous dit quel sentier vont-ils suivre? Cest-il en Esther parmi eux, qui s'introduisent dans les maisons, et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et n'ayant pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Et remarquez, ils apprennent toujours, mais n'ayant sont pas capables de parvenir à la connaissance de la vérité. Jamais capables. Et cela signifie qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu en eux. 8. De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse. De même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Remarquez que ces esprits sont reprouvés quant à la foi. Ainsi, que cela signifie-t-il d'être reprouvé quant à la foi? Adokimo. Reprouvé quant à la foi. Ainsi, que signifie un esprit reprouvé? Le mot reprouvé signifie moralement dépravé, sans scrupule, mauvais. Et remarquez qu'ils sont sans scrupule et dépravés quant à la foi. Et comme nous savons qu'il n'y a qu'une seule foi, et que cette seule foi est la foi du seul Seigneur, ainsi ces gens sont sans scrupule et indisciplinés dans leur compréhension de la seule foi ou de la seule révélation du seul Seigneur. Et comme frère Branham l'a dit, vous n'ayez pouvez avoir une seule foi et croire en plus qu'un seul Seigneur. Jésus-Christ, le même 6 août 1955 p. 15. Maintenant, aujourd'hui, il est interdit parmi beaucoup des croyants, il parle de certaines choses, oh, c'est-ce contre ma foi. Notre foi n'enseigne pas cela. En réalité, il n'y a qu'une seule foi, la Bible l'a dit ainsi. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, et il n'y a qu'une seule foi et c'est la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez? Les uns autant de la fin 25 juillet 1965 MP, 186. Des esprits réprouvés concernant la foi, non pas une foi, la foi. Une seule foi, un seul Seigneur, un seul. Vous n'aimez pouvez avoir une seule foi sans croire en un seul Seigneur. Vous avez deux baptêmes, non pas un pour le Père, et le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul baptême, Jésus-Christ. C'est-ce juste. Voyez, 9000 ennemis feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Et comment leur folie sera connue? Jésus a dit, vous les reconnaîtrez. Et ensuite, vous montrez alors ce que ces gens ennemis sont pas. Paul dit, dis pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Remarquez, premièrement et avant tout, Paul avait sa doctrine. Pour toi, tu as suivi de près ma doctrine. Ensuite, il ajoute, ma conduite. En d'autres termes, votre vie est juste une expression de votre doctrine. Vous devenez un sacrifice. Abel a offert un agneau mourant. Alors Paul dit, regardez à ma doctrine et à ma vie. Et si ma vie n'est mise à ligne pas alignée à ce que j'enseigne alors, vous n'avez pas à me croire. Et Jésus a dit la même chose. Jean 10, 25 Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne m'y croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Jean 5, 36 Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est Esther le Père qui m'a envoyé. Remarquez, qu'il dit, même si vous ne m'y croyez pas à ce que je vous dis, mais regardez à ma vie et les œuvres que Dieu accomplit à travers moi, et vous saurez que ma vie rend témoignage de qui je suis. Et ainsi, la vie du soi-disant croyant et de l'incrédule rend témoignage de ce qu'ils sont en réalité. Et Paul dit, n'examinez pas ma doctrine et ma vie, regardez tout ce par quoi je suis passé. À cause de la doctrine que j'enseigne. 11-12 Nous apprenons, cependant, qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui n'y travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là, et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ, à manger leur propre pain, en travaillant paisiblement. Ainsi, n'y soyez pas distraits, si vous vivez pieusement et essayez d'aider les autres et tout ce que vous recevrez en retour, c'est-à-dire un coup de pied aux dents. Il a dit, t.o.u.s, ce qui signifie chacun, tous ceux qui vivront pieusement comme Dieu, ce qui signifie vivre comme Dieu en Jésus-Christ, seront persécutés. Et comme je l'avais dit auparavant, Moïse a servi Dieu et vécu totalement pour lui, et ainsi les 2 millions des gens l'ont suivi parce que Dieu l'avait confirmé par des miracles et beaucoup de démonstrations surnaturelles de sa présence divine. Pourtant, quel bien cela fit, il aux 2 millions des gens, de suivre Moïse. Leur chamaillerie et dispute l'ont énervé et il a désobéi à Dieu dans sa colère et pour cela, Dieu l'empêcha d'entrer dans ce pourquoi. Il a souffert pendant 80 ans pour y amener les gens. 40 ans pour mourir en soi-même, et 40 ans pour conduire les autres à la promesse, ainsi pour en finir rapidement avec lui-même. Souvenez-vous, 2 millions des gens sont morts dans le désert, qui suivaient la colonne de feu. Et seuls, Josué et Caleb y sont entrés. Même pas Moïse n'y entra, parce qu'il avait développé l'amertume et la colère envers les gens. Il frappa le rocher qui était un type de Christ. Et cela l'a empêché d'y entrer. C'est triste de penser que vous pouvez servir Dieu et être rejeté du milieu des hommes, même ceux de votre propre camp, et ensuite n'y pas y entrer, parce que vous vous êtes disputé et chamaillé. Waouh! Je pense que nous avons besoin de nous mettre en ordre avec Dieu. Mais alors Paul tourne la discussion de sa propre doctrine, sa conduite, et ses souffrances, à ceux qui s'opposent à la vérité. 13 Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal acquis, égarant les autres et égarent eux-mêmes. Ils séduisent les autres, parce qu'ils sont eux-mêmes séduits. Et ainsi, ils peuvent être très authentiques dans leur séduction. Mais qu'ils soient sincères ou pas, ils sont séduits et donc, ils séduisent les autres. Comme frère Branham, là, merveilleusement placé, les gens qui sacrifient leurs enfants aux alligators, étant sincères, mais ils sont sincèrement dans l'erreur. 14 Paul dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Ainsi, nous voyons que vous feriez mieux de connaître, qui vous nourrit de la parole de Dieu, car cela fait une grande différence, la personne qui vous enseigne. Vous feriez mieux de connaître leurs motifs, et objectifs, et vous feriez mieux de savoir où ils se tiennent pour la confirmation, et avec la vérité de la doctrine de Christ. Et ensuite, il ajoute, et souvenez-vous que ceci n'est pas un autre chapitre, c'était une lettre et quelques moines sont venus et ont pris ces belles lettres et les ont divisées en chapitres et versets. Ainsi, immédiatement, après que Paul dit que vous feriez mieux de connaître la personne qui vous enseigne, il dit, 2 Timothée 4, 1-4 je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes n'aimés supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. Maintenant, laissez-moi lire dans la version amplifiée, afin que vous puissiez comprendre ce qu'il dit ici, du fait de la saison favorable ou non. 4:1 Il dit, prêche la parole, comme un messager officiel, sois prêt au moment opportun, et même quand ce n'est pas le moment, garde le sens de ton urgence, que l'opportunité semble favorable ou non, que cela soit pratique ou non, qu'elle soit bienvenue ou non, corrige ceux qui se trompent dans la doctrine ou la foi, avertis ceux qui pêchent, exhorte et encourage ceux qui croissent vers la maturité spirituelle, avec une patience inépuisable et enseignement fidèle. Car il vient un temps, où les gens n'aimés toléreront plus la saine doctrine et l'instruction précise, qui les défient face à la vérité de Dieu, mais voulant avoir leurs oreilles en chatouillement par des choses qui plaisent, ils s'accumuleront beaucoup des enseignants, les uns après les autres, choisis pour satisfaire leurs propres désirs et pour soutenir les erreurs qu'ils détiennent, et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et erreront dans d'imiter les fictions produites par les hommes et accepteront l'inacceptable. Mais pour vous, soyez lucides en toutes circonstances, demeurez calme et froid et stable, endure la véritable épreuve sans fléchir, fais l'œuvre d'un évangéliste, accomplis les tâches de ton ministère. Maintenant, c'est l'état dans lequel nous devons être en ce moment. Nous devons être inébranlables, ce qui signifie, nous n'aimons devenons pas être amers quand les autres sont amers. Nous n'aimons nous disputons pas quand les autres se disputent. Nous n'aimons réciproquons pas, coup sur coup, comme le fait le président Trump. Non, nous n'y sommes pas appelés à faire cela. Nous sommes appelés à être comme Christ, conforme à son image. Jésus a dit dans Matthieu 5, 37 que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. En d'autres termes, Salomon, l'homme le plus sage, a dit dans les proverbes de même l'insensé quand il parle peu. Il semble sage. Par conséquent, il a aussi dit dans Ecclésiaste 5, de Néhémie se presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur Néhémie se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel, et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Laissez-moi lire quelques-uns de plus, à partir des proverbes. J'avais l'habitude de les lire chaque jour, quand j'étais jeune, parce que vous pouvez apprendre assez sur la vie, en les lisant. Proverbe 29.11 L'insensé met en dehors toutes ses passions, mais le sage la contient. Proverbe 17.28 L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage, celui qui ferme ses lèvres reste un homme intelligent. Proverbe 15.1 De la langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. Proverbe 12.15 Les voies de l'insensé estèrent droites à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils estèrent sage. Proverbe 26.12 Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Proverbe 14.16 Le sage a de la retenue et se détourne du mal acquis, mais l'insensé estèrent arrogant et plein de sécurité. Proverbe 10.8 Celui qui estère sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui estère insensé des lèvres court à sa perte. Maintenant, rentrons à Jésus dans Matthieu 5, 38-48 Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de n'aimer pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais en deux avec lui. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Prions. Ce sermon a été traduit en langue française par le frère Bill Venga, bilvenga@yahoo.fr. C'est grâce Fellowship Tabernacle.